Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
L'actualité est faite de jour J, on vous la raconte chaque soir sur RTL. Et ce soir, notre invité nous ouvre, et c'est exceptionnel, les portes du renseignement français. Merci d'être fidèle à Jour J que vous écoutez sur RTL ou en podcast. C'est le monde de la manipulation de l'écoute et du renseignement. Ici, on murmure, on ment, on invente. La DGSE est un monde à part avec ses codes, son vocabulaire, ses valeurs. On n'y entre pas par hasard. Ici, tous sont habités par la conviction patriote et ont pour mot d'ordre le silence. Pourtant, ils ont accepté de le briser pour notre invité. Et notre invité, c'est Jean-Christophe Notin. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivain et vous êtes l'auteur d'un livre d'entretien, mais pas que, qui s'intitule DGSE, la fabrique des agents secrets, que l'on peut retrouver chez Talendier et qui fera également l'objet d'un documentaire du même nom qui sera diffusé le 9 avril en prime time sur France 2. Ce que vous avez vécu, c'est exceptionnel.
On peut le dire à plus d'un titre. C'est la première fois que la DGSE accepte d'ouvrir ses portes pour un documentaire de longue durée, avec des officiers en place, en poste, et qui acceptent de parler de véritables opérations. C'est véritablement une grande première française, et on peut même dire mondiale.
Mais c'est pas la première fois que vous vous attaquez à ce sujet de la DGSE, c'est la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, pour ceux qui nous écoutent, qui a ouvert donc ses portes, non seulement au besoin d'un livre, mais également d'un documentaire. Ce n'est pas la première fois que ce sujet vous intéresse, vous. Mais c'est la première fois que vous arrivez justement à pousser ces portes-là. Comment est-ce que vous avez réussi à les convaincre ?
Alors, ça fait quelques années, maintenant plus de 15 ans, que je m'intéresse à ces questions de renseignement.
Vous les avez eues à l'usure, en fait ?
En quelque sorte, ou alors ils en ont marre.
Bah, vous êtes très fort, parce qu'ils sont, normalement, ils doivent être rompus à l'exercice.
Oui, mais je suis très insistant.
C'est ce que j'ai cru comprendre.
Et voilà, donc à la longue, à force de parler de certaines opérations, de voir qu'un climat de confiance s'installe, ouais. Ils ont accepté de relever avec moi ce défi.
D'accord. Pourquoi c'était un défi pour eux ?
Ah, parce que ça ne s'est jamais fait. Il faut bien, ouais. C'est quand même la maison dont les membres ne doivent jamais parler.
Ouais.
Et là, donc, vous faites débarquer une équipe de télévision dans les couloirs de... Vraiment, on était dans les conditions de travail de la DGSE.
Ouais.
Et vous leur demandez, bah, maintenant, allez-y, vous avez deux caméras face à vous, une équipe, parlez. Dites vraiment ce que vous faites à la DGSE. Donc, évidemment, ça peut poser quelques obstacles à la parole, au début, au moins. Et bon, après, le climat de confiance s'installe. L'ambiance s'assainit et tout s'est très très bien passé.
Est-ce que la DGSE a posé des conditions à ces entretiens ?
À vrai dire, non. Alors les seules conditions, c'est évidemment les conditions de tournage. On est obligé de laisser les rushs, comme on dit. Toutes les
alors les rushs, ça veut dire, voilà, c'est tout ce que vous avez tourné. Donc vous avez été obligé et contraint de les laisser à la DGSE ?
À vrai dire, on a fait tout le film à la DGSE. Mm-hmm. Donc également ce qu'on appelle le montage.
Ah, vous êtes installé dans les locaux, quoi.
Véritablement, oui. On a passé plusieurs semaines à la DGSE, dans une pièce dédiée, rien que pour nous.
D'accord. Mais plusieurs semaines, c'est plusieurs mois même, hein.
Plusieurs mois, à vrai dire. D'accord. Oui, ça a commencé début janvier 2023.
D'accord.
Et ça, on a terminé il n'y a pas très très longtemps.
D'accord. Ok. Donc vous avez passé un sacré bout de temps donc dans ces locaux. On va en parler justement dans un instant. Vous avez été surpris par ce que vous avez pu voir ou entendre justement au sein même de la DGSE ?
Alors forcément pour moi qui les connais depuis 15 ans, mais je les connaissais à l'extérieur des murs. J'étais déjà rentré quelques fois, mais je les ai jamais vus à l'œuvre, au travail.
Oui.
Donc là, véritablement, vous découvrez une machine de l'intérieur. Mm. D'ailleurs, c'était l'objectif du livre et du film. Ça décrit une DGSE plus prosaïque que l'image que l'on en a, évidemment, de James Bond, de cow-boy courant dans tous les sens. C'est une administration. Mm. Avec les joies et les contraintes de l'administration, donc un métier en fait très procédurier, très cadré, avec des gens très posés, avec beaucoup d'humour. Il y a un humour DGSE, on peut dire, justement jouant un peu sur les fantasmes de la communauté extérieure, des gens de l'extérieur, comme ils disent. Donc ça, pour moi, ça a été une découverte.
La DGSE, c'est où ?
Alors, les boulevards Mortier,
ouais.
Où vous descendez
dans
métro,
le 20e arrondissement de Paris.
Métro Porte des Lilas.
Ouais.
Et bah, vous vous engagez sur ce boulevard Mortier où il n'y a rien, à part la piscine Valray, qui est la piscine olympique.
D'accord.
Qui a été rénovée récemment. Et puis après, vous voyez une espèce de caserne à gauche et à droite du boulevard, évidemment sans aucune indication. Et vous êtes à la DGSE.
Alors, vous dites et vous parlez d'un site quelconque qui aime à ne pas être remarqué. Néanmoins, quand on voit les images, parce qu'on peut voir des images sur Internet, hein, si vous tapez DGSE adresse, vous verrez, c'est quand même vachement impressionnant. C'est énorme.
Ah, c'est pas si énorme que ça. La DGSE, c'est 7000 employés, en fait.
D'accord.
C'est une belle administration, mais c'est pas immense, immense. Et en fait, ce sont deux casernes qui ont été accolées. Il y a un tunnel souterrain qui relie les deux casernes.
Ouais.
Mais c'est non, à vrai dire, c'est même une des difficultés de la DGSE, c'est le manque de locaux.
Ils vont bientôt déménager, on y reviendra. Ils vont changer d'adresse. Ils vont aller du côté de Vincennes en 2028. Donc, ils ont encore un petit peu de temps, boulevard Mortier. Est-ce que c'est un site sous haute surveillance? Je veux dire, quand on arrive à la DGSE, j'imagine qu'ils font montrer patte blanche.
Oui, là, forcément, il ne faut pas arriver à la DGSE si vous n'y avez pas rendez-vous.
D'accord.
Vous allez être reçu de manière assez bizarre. D'ailleurs, c'est assez amusant. Ils ont des fois des gens qui débarquent à l'accueil de la DGSE disant « j'ai des renseignements exceptionnels à vous donner ».
Comme dans les films.
Mmh. Oui, mais bon, il y a beaucoup de gens qui ont des petits problèmes psychologiques, on va dire.
Ouais.
Mais donc, donc il y a des SAS de sécurité divers et variés, vous êtes fouillés dans tous les sens.
Vous avez dit qu'il y a 7000 personnes qui y travaillent, est-ce qu'on sait à peu près combien il y a de métiers au service du renseignement?
Alors, c'est ce qu'elle nous a dit, la directrice d'administration, je crois à peu près 160 métiers.
D'accord.
Parce que même les cuisiniers sont membres de la DGSE, c'est un corps de fonctionnaires à part entière.
Oui.
Donc vous avez tous les types de métiers, du très fonctionnel, très logistique, à ce qu'on imagine le plus proche de l'espion.
Voilà, mais ce que vous nous expliquez, c'est que toute personne qui travaille à la DGSE travaille au sein d'une entité très singulière, c'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qui se passe en dehors de la DGSE, c'est un peu l'étranger, c'est un peu l'extérieur. C'est-à-dire que, quel que soit son poste et sa hiérarchie au sein de la DGSE, on fait partie aussi d'une autre vie, une vie très singulière.
Oui, vous rentrez dans un autre monde avec des conditions très particulières.
Et j'imagine aussi des conditions pour y entrer qui sont particulières. C'est-à-dire que j'imagine aussi que la dame qui s'occupe de l'entretien des bureaux, par exemple, potentiellement, c'est une femme qui peut être dangereuse.
Avant qu'elle entre dans les bureaux de la DGSE, il va y avoir une enquête de sécurité.
Voilà.
Donc on va vérifier que tout se passe bien pour elle. Et puis après, elle va être enregistrée, elle va bénéficier d'un badge qui va lui donner l'accès à certains endroits et pas à d'autres. Tout ça est très, très codifié, très, très cadré.
La motivation de ceux que vous avez rencontrés, c'est quoi ?
Il y a un peu tout, pour être très franc. Ce qui m'a d'ailleurs beaucoup surpris chez les jeunes que nous avons interrogés, il y a quand même le sens, ce qu'on va appeler le patriotisme, mais le service du bien commun.
Ça revient dans beaucoup d'entretiens.
Oui, c'est très fort. Il y a un jeune qui dit très bien, moi j'aurais pu gagner plusieurs milliers d'euros supplémentaires, mais moi je voulais mettre au service mes connaissances, au service du pays. Donc ça, c'est très fort. Après, évidemment, quand ils prennent un peu de l'âge, il y a le fait de servir une entité très particulière, le fait de faire des métiers que d'autres ne font pas, ça joue beaucoup quand même.
Et ce qu'il y a de dingue, c'est qu'en fait, on se rend compte que c'est une vie parfois extraordinaire pour des gens qui restent aussi des personnalités ordinaires. Et c'est ça qui est complètement fou. On va se retrouver dans un instant. Vous êtes notre invité pendant une heure. On va faire, dans cette émission, la connaissance aussi de certains d'entre eux que vous avez rencontrés, qui se sont confiés à vous. Je vous le disais il y a un instant, c'est marrant parce que à la fois, ils se confient, ils disent des choses qu'ils n'ont jamais dites, et en même temps, on sent l'art du renseignement. C'est-à-dire que de temps en temps, on a l'impression qu'ils nous envoient des petits jets d'encre comme ça, pour mieux se dissimuler. Ça va être l'occasion aussi pour nos éditeurs de découvrir certains postes clés qui font le succès du renseignement français. On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL.
Dans le renseignement, nous sommes très attentionnés. Le moindre détail nous intéresse. Les maisons que vous habitez n'ont pas de secret pour nous. Vos voisins sont nos amis. Vos femmes de ménage, nos confidentes. Et la manipulation est notre métier.
C'est un extrait du film Les Patriotes d'Éric Rochant, un film régulièrement évoqué par ceux que vous avez interviewés. Jean-Christophe Notin, vous êtes notre invité et vous nous ouvrez ce soir les portes de la DGSE. C'est une première, l'avez-vous dit, une première mondiale aussi, c'est-à-dire que le service du renseignement extérieur, évidemment, n'ouvre jamais ses portes, et encore moins à des écrivains, à des journalistes ou une équipe de télévision, puisque votre livre fait également l'objet d'un documentaire qui sera diffusé en prime time sur France 2 le 9 avril prochain. Patriote, on le disait il y a un instant, c'est l'un des premiers mots aussi qui peut nous venir à l'esprit lorsque l'on lit les entretiens que vous avez pu mener. Vous avez rencontré ceux qui font, je dirais, la qualité du service de renseignement français. Comment la DGSE est-elle perçue à travers le monde, vous qui vous y intéressez depuis une quinzaine d'années?
Pour être très très franc, il y a une évolution. La DGSE est bien bien montée en gamme depuis une quinzaine d'années.
D'accord.
Il y a une quinzaine d'années, vous disiez DGSE à l'étranger, très honnêtement, ça ne disait rien.
Okay.
C'était dans des endroits très particuliers où la France a coutume d'intervenir en Afrique, au proche Moyen-Orient. Maintenant, les affaires aidant, le contexte international aidant, la DGSE a acquis énorme notoriété. Elle le doit aussi particulièrement au Bureau des légendes.
La série.
Qui a beaucoup contribué.
Elle existe depuis quand la DGSE? Parce que là, vous me parlez d'il y a 15 ans. Mais avant, c'était le SDEC, donc le Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage. Et encore avant, c'était le BCRA, le Bureau Central de Renseignement et d'Action qui a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est quoi l'histoire de la DGSE? La DGSE, c'est finalement la continuité de ces deux premières entités?
Oui, tout à fait. La clandestinité est un peu un intemporel, un éternel. Donc les Français ont beaucoup appris des Anglais pendant la Seconde Guerre. Donc le BCRA, mais il y avait aussi, pour être très franc, hein, les services girondistes, les services de Vichy qui ont également résisté. Sur cet amalgame s'est créé le SDEC juste après la guerre, avec in fine à la fin le légendaire Alexandre de Maranche, qui a vraiment, là pour le coup, étendu l'emprise du SDEC dans le monde.
C'était qui, pour ceux qui ne le connaissent pas?
Un personnage qui a le record de longévité à la tête du SDEC, donc 70-81, un personnage extraordinaire, un aristocrate. Ça a été le plus jeune directeur du SDEC jusqu'au nouveau DGSE, Nicolas Lerner. Lui, il l'avait pris à 49 ans.
Ouais.
Et donc vraiment, il a porté le SDEC, il a permis au service action des choses qui ne se feraient plus maintenant.
D'accord.
C'était la grande époque, mais hélas, avec les mauvais aspects aussi du renseignement où des gens ont pu faire un peu n'importe quoi.
Okay.
Donc la DGSE a été créée en 82 pour un peu rationaliser tout ça. Et depuis, donc, depuis 40 ans, il y a eu tout un ensemble de réformes, de restructurations, pour justement apporter beaucoup plus de professionnalisme. Et ce que fait maintenant la DGSE est vraiment très, très cadré. C'est certainement l'administration la plus contrôlée en France.
Mais alors, justement, vous dites que c'est l'administration la plus contrôlée. Ça n'a visiblement pas été le cas quand on vous écoute. Donc, j'ai envie de savoir un petit peu ce qui se passait, parce que ce n'était pas les pieds nickelés.
Non, mais c'était une époque plus... Comment on va dire?
Ben oui,
non,
je voudrais comprendre.
Plus d'aventure.
Voilà, c'est ça. Donc, il y avait...
Sous le prétexte justement de faire de la clandestinité, les gens s'autorisaient à créer ce qu'on appelait des structures.
Voilà, alors racontez-nous, expliquez-nous.
Et créer des sociétés sans forcément prévenir la hiérarchie du SDEC.
D'accord.
Donc ces fameuses structures ont pu même perdurer alors qu'elles étaient censées avoir disparu.
D'accord. Donc, mais ils faisaient quoi? Des conneries?
Alors,
je voudrais comprendre, moi.
Dans la majorité des cas, ils ont servi le pays, les intérêts. Ouais. Et puis dans d'autres cas, hélas, il y a eu différentes affaires de, on va pas dire détournement d'argent, mais presque.
D'accord. Ok, bon, c'est pour ça qu'il a fallu serrer les vis,
oui.
Quoi. Ok, ça, j'ai compris. Donc c'est la probité qui fait un bon service de renseignement.
Ah, forcément. Non, bon. Ça, c'est vraiment la qualité première. C'est ce qu'ils appellent l'honnêteté intellectuelle. C'est une question qui m'interroge toujours parce que c'est ce qu'ils essaient de détecter dans les premières semaines, dans les premiers mois. Et manifestement, ils y arrivent.
Vous avez rencontré des êtres humains qui ont une vie extraordinaire, des gens ordinaires à la vie extraordinaire. On a le sentiment, en fait, que le bon fonctionnement de la DGSE repose aussi sur à la fois de la technologie, parce qu'on est en 2024, on parlera d'Ulysse un petit peu plus tard, et en même temps de l'humain. Et le bon renseignement, en fait, il ne peut pas ne pas passer par l'humain.
Plus il y aura de technologie, plus on en reviendra à l'humain.
Oui, c'est ça.
Le renseignement, c'est l'humain avant tout.
C'est ça.
Et on le voit, alors j'allais dire, hélas, on le voit du côté des terroristes, typiquement,
ouais.
Qui se sachant écouter, épier, donc n'utilisent plus leur portable, ouais. N'utilisent plus de traces numériques. Et ben donc, pour les coincer, il faut utiliser les renseignements humains, leurs connaissances, leurs contacts humains. Et c'est
à l'ancienne.
À l'ancienne. Donc, c'est là où on revient au BCRA, aux très vieilles méthodes de manipulation qui est la base du métier du renseignement.
Quand on travaille dans un service de renseignement comme la DGSE, est-ce que toutes les identités sont connues de tous? Comment on s'appelle dans les couloirs? Par exemple, si on était collègues, j'aurais quoi? Alors, j'aurais une...
Ça dépend le service auquel vous appartenez. La très grosse majorité va s'appeler par leur prénom.
D'accord, simplement. Ok. Donc Jean-Christophe et Flavie. Okay.
Exactement. Et après, si nous appartenons à des services clandestins, là, ça va être un petit peu plus compliqué.
C'est vous qui choisissez votre nom de couverture?
Alors, ça dépend. Alors, généralement, non.
Ah.
C'est un service dédié qui va vous attribuer une légende, un faux nom et une couverture, donc une fausse activité.
D'accord.
En sachant que de plus en plus, et justement lié à la technologie, de plus en plus en fait les légendes se réduisent à des identités réelles. Vous vous appelleriez vraiment Flavie à l'étranger,
d'accord.
Agent de la DGSE.
Voilà, l'IR et l'IF, on y reviendra, l'identité réelle et l'identité fictive, ce qui est la difficulté évidemment pour certains agents. Quelque part, est-ce qu'on sacrifie sa vie privée sur l'autel de la DGSE?
Alors
ceux
ça,
que vous avez rencontrés, ils n'ont pas de vie privée?
Alors ça, hélas, quand je voyais les jeunes qui disait mais non, jamais j'arriverai à tenir ma vie privée. Hélas, pour en avoir vu beaucoup, hélas, divorcés.
Ouais.
Ce sont des services évidemment très, très engagés, qui ont des horaires de dingue, qui peuvent être mobilisés à tout moment. Les clandestins peuvent être envoyés à l'étranger pendant des mois sans dire forcément à quel moment ils vont revenir. Donc forcément, ça fait des contraintes sur le couple et beaucoup, beaucoup, hélas, lâchent.
Est-ce que les familles savent réellement ce que font leurs proches? Est-ce qu'eux peuvent dire à leur entourage ce qu'ils font ou...
Alors, la règle serait qu'ils ne disent rien.
D'accord.
Bon, évidemment, c'est pas tenable.
Ouais.
Donc, en général, ils préviennent le conjoint, la conjointe, j'appartiens à la DGSE. Mais après, ils vont pas donner le détail de ce qu'ils font.
Et quand ils vont dans des dîners, ils disent quoi?
C'est là où c'est un exercice de style. C'est une étude très noire de l'âme humaine, de la société humaine, parce qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, les gens ne s'intéressent pas aux autres.
Ouais.
Donc, il suffit qu'ils disent.
Vrai.
Il suffit de dire, j'appartiens au ministère des Armées, je fais des tableaux Excel. On dit, c'est bien.
On passe à autre chose, et puis la personne parle d'elle, et comme ça, elle est contente. Quoi.
Exactement.
Ok, bon, classique, quoi. Est-ce qu'ils se fréquentent entre collègues?
Alors,
ils se font des pots et tout, hein.
C'est également ce que j'ai découvert pour y avoir, passé. Oui, il y a une organisation, une société classique, mais évidemment, entre eux. Donc, à l'extérieur, très très peu. Mais donc, ils ont quand même une vie sociale, un minimum.
Dans un instant, vous allez nous emmener au service Action à la rencontre de Blake. Alors moi, Blake, il m'a...
Alors, on est dans le mythe.
Ouais, voilà. Il m'a fait quelque chose, comme dirait l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Blake, vous l'avez rencontré, donc il fait partie du service Action. Alors lui, il fait légalement des choses illégales. Eh bien justement, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit tout de suite dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Je vous conseille ce livre paru chez Talendier. Jean-Christophe Notin en est l'auteur. DGSE, la fabrique des agents secrets. Jean-Christophe Notin, il en est un qui a fait valser bon nombre de clichés sur le service Action de la DGSE. Vous l'avez rencontré, c'est Blake. Non mais je rigole, hein. Vous savez, je fais tout un sketch au sujet de Blake. Mais en fait, Blake, vous avez voulu le rencontrer, on vous a proposé un bureau. On va expliquer maintenant ce qu'est Service Action et ensuite on expliquera dans quelles circonstances vous l'avez interviewé.
Alors le Service Action, c'est le bras armé de la DGSE.
Donc oui.
C'est une unité militaire, à peu près 1000 individus, et qui font tout ce qu'on peut imaginer. Comme dit fort bien Blake, ils font tout ce que vous voulez bien imaginer.
Oui, mais alors attends, c'est quoi? Concrètement, ils éliminent, ils peuvent neutraliser les menaces pour la sécurité du pays. Ils font légalement des choses illégales. Ça veut dire quoi, ça?
Alors ça, c'est la définition de l'intervention de la DGSE à l'extérieur, puisque forcément...
Oui, d'accord.
C'est le but d'un service de renseignement, de faire des choses que les autres ne font pas.
D'accord, mais enfin,
auxquelles ils ne sont pas autorisés.
Oui, dans le service action.
Donc le service action peut faire tout un tas de choses, comme le soutien à des mouvements insurrectionnels. Donc ça peut être apporter des armes, faire des formations, ça peut être assurer la sécurité de personnes. Et puis après, ça peut être, comme le dit fort bien Blake, nous sommes le kit à entraver.
Oui.
Et donc c'est l'entrave, au sens militaire du terme,
oui.
Et qui est très très vaste. Qui va être empêché un individu de nuire aux intérêts de la France. C'est la définition.
Donc ça peut aller très loin.
Comme dit Blake, vous pouvez tout imaginer.
D'accord, donc on peut tout imaginer.
En sachant il ne faut pas rentrer non plus dans le fantasme, déteste ça.
J'entends.
Le DGSE n'est pas une machine à tuer.
Non, mais
c'est
ça, on l'entend.
Exceptionnel.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, lui, il a la carte blanche pour tout ce qui peut, à un moment donné, protéger le pays. Voilà, on va dire.
Alors, carte blanche, même le service d'action est très, très cadré.
Oui. Donc, non, mais alors j'essaie de trouver les bons mots. Oui, mais sur ordre. Enfin bon, il peut faire des trucs qu'on n'a pas le droit de faire. Voilà. Pour la sécurité du pays. Voilà, c'est ça. Donc, Blake, il avait une vie avant de rentrer au service action. Il était à la Légion.
Oui.
Voilà, il était militaire. Et donc, du coup, vous devez interviewer Blake. Alors, Blake, c'est pas son vrai nom, on est d'accord?
Non.
D'accord.
Pas son vrai pseudo.
Donc, Blake, vous devez l'interviewer. On vous propose un bureau. Et vous vous dites, bah non, un mec du service action, moi je préférais l'interviewer dans les sous-sols.
Et oui, j'ai eu cette sinistre idée. J'ai voulu que ce ne soit pas dans un bureau. Je me suis dit, c'est pas approprié pour un homme de terrain de le faire dans un bureau.
Donc on va aller sur le terrain.
Donc bon, il y a eu différentes propositions. Ouais. On s'est retrouvés dans les sous-sols de Mortier, qui sont des sous-sols intéressants en soi. Hein, parce que...
Quand vous dites Mortier, c'est la
DGSE. Alors pardon, Mortier, c'est le siège de la DGSE.
D'accord.
Mais je m'en veux parce que, une fois de plus, c'est tombé dans le cliché. Service action, c'est pas que des gens qui rentrent dans un sous-sol.
Voilà. Et Blake est arrivé.
En costard.
Voilà. Donc, un mec pour des bureaux, en fait. Enfin, vous l'avez pas vu débarquer en treillis avec bardé d'armes et de munitions, quoi.
C'était, mais moi qui les connais depuis très très longtemps, je m'en veux. J'ai été ridicule. Hein. Je bats ma coulpe. Je n'aurais pas dû tomber dans ce cliché-là.
C'est une rencontre qui vous a marqué, Blake ?
Oui, c'est un personnage. Il a une énorme expérience du service action, donc c'est toujours agréable de parler à quelqu'un qui a ce véhicule-là et qui sait très bien en parler.
Ils interviennent partout dans le monde entier ?
Oui, ça, ils peuvent être envoyés à peu près n'importe où,
mais
avec un minimum de préparation.
On a déjà des forces spéciales dans l'armée.
Alors, les forces spéciales, c'est vraiment une unité militaire qui normalement agissent en uniforme et qui vont faire des actions que l'État français soit en capacité de revendiquer.
D'accord.
Le service action va intervenir de manière clandestine, démarqué, sans uniforme normalement.
D'accord.
Et l'État pourra dire non, c'est pas nous.
Ok, d'accord. Comment est-ce qu'on entre au service action ?
Un peu comme dans tous les services de la DGSE, il y a une espèce de semaine de test. On va les mettre en condition, justement, les stresser au maximum pour voir vraiment ce que vaut le bonhomme ou la bonne femme, si j'en prends
bien sûr, s'il y a des femmes.
Oui,
voilà,
exactement.
C'est ça. Il y a la bonne femme, parce que ce que vous précisez, effectivement, c'est qu'il faut avoir un sacré sang-froid pour tenir ce genre de situation et que dans le service action de la DGSE, bah, c'est pas une bande de têtes brûlées, quoi.
Pas du tout.
Du tout.
Vraiment, la DGSE est sans doute, à mon avis, le corps de l'État français qui est le plus aux antipodes de l'image qu'on en a.
Ouais.
Donc, au contraire, les gens du service action sont des gens très très posés, très très calmes, pas du tout m'as-tu vu, pas du tout je vais tirer dans tous les sens. C'est au contraire le calme, la discrétion, ça c'est fondamental, être discret. Ce sont des gens qui sont appelés à se fondre dans la population, donc à vrai dire vous ne les reconnaîtriez jamais.
Il vous a parlé de ses missions, Blake ?
Oui, dans les limites du genre, donc sans donner le pays, sans dire exactement ce qu'il en a fait. Mais ça suffit. Est-ce qu'il y a besoin de rentrer dans tous ces détails-là ? C'est pas ça qui est plus fascinant à la DGSE. Une fois plus, ce sont les hommes et les femmes qui les constituent. Mmh. Donc pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Est-ce que ça a eu comme influence sur eux ?
Justement, sa motivation, c'est quoi ?
Lui, c'est vraiment servir le pays dans des conditions exceptionnelles qu'il n'avait peut-être pas connues dans l'armée classique.
On va se retrouver tout de suite, on va poursuivre justement ces rencontres. On va toucher du doigt ce qui ressemble le plus à la légende de l'agent secret, ce sont vos mots, hein, pour décrire Mélinoé. Mélinoé, on se doute bien effectivement encore une fois qu'il s'agit d'un pseudo. Mélinoé que l'on retrouve dans le doc aussi sur France 2, on va l'entendre dans un instant. A tout de suite.
Nom et prénom.
Mortazavi.
Non, vous.
Ah, l'oiseau marina.
Votre adresse à Paris.
Mon ancienne adresse, j'ai rendu l'appartement. 23 rue des Pyrénées.
Métro.
Porte de Vincennes.
Date et lieu de naissance ?
14 mai 1989 à Bayonne, avenue du Général Leclerc.
C'est quoi le nom des arènes à Bayonne ?
Je sais pas, j'aime pas la corrida.
Si vous avez grandi à Bayonne, vous le savez. Vous avez grandi à Bayonne. Arène de Lâche-Paillé.
Lâche-Paillé.
Les géniales Florence Loureccaille et Sarah Giraudeau qui construisent ensemble la légende de Marina Loiseau dans la série Le Bureau des Légendes. Jean-Christophe Notin, vous êtes notre invité et vous avez rencontré Mélinoé qui est ôté clandestin. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, ôté officier traitant, donc ce sont les agents appelés à aller au contact de sources. Et appelés à les manipuler pour obtenir le renseignement, l'information cherchée.
Pourquoi Mélinoé ?
Là, vraiment, on est au cœur de ce que l'on peut imaginer, de l'image d'Épinal, de l'espion. Donc, c'est la personne qui va à l'étranger, généralement sous un faux nom.
Mais pourquoi ce nom ?
Alors, c'est elle qui l'a choisi. Et parce que c'est la déesse des songes ou des rêves. Donc, elle est très bien choisie.
Et d'une forme de manipulation. Voilà. Mélinoé, on va l'entendre dans le documentaire DGSE, la fabrique des agents secrets, qui sera diffusé le 9 avril sur France 2.
Je crée une vraie société qui a des vrais bureaux, un siège social, des statuts, un comptable, un avocat, des cartes de visite, des clients, des vrais, quelques infos, mais surtout des vrais.
Au sein des employés, qui est au courant de...
Absolument personne. Et jusqu'à la fin, en fait, c'est ça qui assure la sécurité du montage. C'est que le fait que absolument personne ne sache que tout ça est une structure ex nihilo en vue de, certes, faire du business, mais surtout ramener du renseignement.
Sacré personnage, hein, Mélinoé. Hein.
Oui, c'est le genre de personne qui vous marque, avec une très forte présence et un sens de la relation exceptionnel. On l'a vu dès qu'elle est entrée dans la salle, salle de crise en quelque sorte, dès qu'elle est entrée dans la salle, il y avait vraiment un charisme. Donc ça correspond vraiment au métier qu'elle était censée faire, donc d'aller au contact des gens et d'essayer d'obtenir ce qu'on lui demandait d'obtenir.
Obtenir donc des informations. Alors là, vous nous dites, et vous n'avez de cesse de le faire d'ailleurs dans votre ouvrage, qu'il ne faut pas verser dans le cliché, mais là pour le coup, elle est à la hauteur de ce que l'on peut imaginer. imaginer vraiment de l'agent de renseignement.
Et oui, hélas, on a beau combattre les clichés reviennent. C'est vraiment l'image, vraiment ce qu'on peut imaginer comme officier de renseignement typique.
Pour devenir officier traitant clandestin, Mylène Noé, elle a été tamponnée. Ça veut dire quoi, être tamponnée?
Alors, elle était un cocktail, et c'est une chercheuse de base, docteur en sciences, et quelqu'un l'a approchée en lui disant « Tiens, on pourrait discuter, je vous donne ma carte ». Évidemment, il ne dit pas d'où il venait. Il l'a recontactée plusieurs semaines plus tard, ou plusieurs jours, je ne sais plus. Et c'est petit à petit qu'évidemment, il a commencé à lui expliquer... qu'il chercherait à la recruter et à lui faire intégrer ce service très très particulier, cette boîte noire dans la boîte noire, qui est le service où l'on retrouve les fameux clandestins.
Donc ce qui veut dire que la DGSE travaille à son recrutement en permanence et repère, distingue de potentiels agents.
Oui, alors surtout, ce service-là très particulier, c'est vraiment du sur-mesure. C'est-à-dire que la DGSE identifie une zone, identifie des gens qu'elle voudrait approcher.
Donc par exemple, on veut aller, je dis n'importe quoi, on va au Soudan, on va monter une boîte de recherche sur je ne sais pas quel minerai, et donc il va falloir qu'on trouve le profil de la personne qu'on va pouvoir envoyer là-bas, et ça va être crédible.
Exactement, identifier la bonne personne qui a peut-être une connaissance ou pas, elle peut être formée à cette connaissance-là, et qui va pouvoir intervenir, une fois de plus approcher, parce que les clandestins approchent des gens, les gens vont ignorer jusqu'au bout que la personne appartient en fait à la
DGSE. Oui, bien sûr. Donc, ils ne le sauront jamais, en fait.
Jamais. Donc c'est un travail vraiment de relationnel, d'approche de source, de manipulation.
Comment elle a été formée justement, Mylène Noé?
Alors c'est très très long, ça se passe dans des appartements clandestins dans Paris.
Comme dans le film.
Oui. Le bureau des légendes est assez proche.
Ouais.
Et c'est, on va dire, c'est une pratique que l'on retrouve dans tous les grands services de renseignement dans le monde. Ce sont des méthodes assez classiques.
Ok.
Et donc pendant des mois, on lui apprend la manipulation, on lui apprend tout le langage, on lui apprend les franchissements de douane, les interrogatoires. Tout
elle ça. Est payée dans ces cas-là?
Enfin, oui.
Je veux dire, elle a un contrat avec la DGSE ou elle est payée à la mission? Comment ça se passe?
Alors, elle est censée appartenir à la DGSE, donc elle doit avoir un traitement correspondant sur la grille des fonctionnaires de la DGSE. Oui. La DGSE, une fois de plus, c'est une administration.
Oui.
Mais là, en l'occurrence, donc, elle crée une boîte, une société. Donc tout le jeu est que par cette société, elle soit payée comme elle serait payée dans l'administration française.
D'accord, ok. Je voudrais qu'on parle des tests, notamment le test de Spygame.
Alors ça, c'est assez emblématique dans les services de renseignement de manière générale. Donc Spygame, le film avec Redford et Brad Pitt, c'est Redford qui forme Brad Pitt et qui lui dit...
Il ne brade pas forme, mais il forme Brad, ouais.
Et qui lui dit, tu vois telle fenêtre à tel appartement, tel immeuble, il faut que d'ici un quart d'heure, tu sois à la fenêtre et tu apparaisses avec un verre d'eau. Et donc c'est un test qui est encore... pratiqué à la DGSE et dans les grands services qui pratiquent cette clandestinité très particulière. C'est au candidat là, d'improviser un prétexte pour se débrouiller, pour rentrer dans l'immeuble. Ce n'est pas anodin. Hein. Des fois, il y a des digicodes, il y a des interphones, et puis de taper à la porte et que la personne vous ouvre, vous laisse entrer avec un verre d'eau ou un café.
En fait, ce sont des tests pour d'aptitude au fait de se mouvoir, d'enfoncer des portes qui sont fermées, d'avoir des renseignements sur des personnes. Regarde, tu vois, le bistrot d'en face, le monsieur qui a l'impair. Tu veux que dans un quart d'heure, tu reviennes en me disant ce qu'il fait dans la vie, qu'elle agit là.
Exactement. Ou son numéro de téléphone, ou son adresse mail. Le but, c'est de vous faire dépasser vos limites. C'est pas tant que vous réussissiez, c'est que vous y alliez.
D'accord.
Vous essayez le coup.
Un métier de mensonge, un métier de solitude que celui de Mylène Noé. Elle a le goût de ça. Ça, elle le raconte.
Oui. Ça correspond à un caractère. C'est pas un métier donné à tout le monde. Il faut arriver à... Et là, c'est vraiment la confrontation avec vos motivations. Pourquoi vous faites ça? Et les risques que vous encourez. Et donc, c'est un métier forcément solitaire. Vous ne pouvez vraiment pas raconter du tout ce que vous faites. Vous voyez très peu de gens.
Alors justement, le secret de la DGSE, il est à tous les étages. On va se retrouver dans un instant et poursuivre notre conversation. On va parler de Jean aussi. À tout de suite.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Avant de parler du secret de la DGSE, Jean-Christophe Notin, encore deux petites choses concernant Mylène Noé. Il y a un instant, vous nous parliez de cette femme au caractère si singulier qui cultive le goût de la manipulation, du mensonge, qui, dites-vous, a un charisme de dingue. Elle est officier traitant clandestin en deux mots, donc elle va dans des pays sous une fausse identité, pratiquer son métier d'origine, en tout cas elle est chercheuse, pour soutirer des informations. informations, donc au profit du service de renseignement extérieur français. Dans le vocabulaire du renseignement, il y a beaucoup d'acronymes et il y a notamment, j'en parlais tout à l'heure, IR et IF. C'est toute la vie de Mélinoé. IR et IF, c'est identité réelle et identité fictive.
La légende des légendes, c'est qu'un agent envoyé à l'étranger va prendre une fausse identité.
Oui.
Donc il va travailler sous identité fictive, donc en IF. Maintenant, vu la technologie, vu la biométrie, évidemment, ça pose beaucoup de problèmes au franchissement de douane. Vous déposez vos empreintes, c'est très difficile de se faire appeler Durand à telle frontière et à vous faire appeler Dupont à telle autre. Donc en particulier, Mélinoé a été embauché, on va dire employé en IR, identité réelle, donc sous sa véritable identité. Ça a l'air sympathique de prime abord, mais ça pose des contraintes énormes, puisqu'il n'y a plus de frontières entre la vie privée et la vie professionnelle. Donc, si elle est prise en otage, bah, tout le monde connaîtra son nom, sa famille sera impliquée. Et quand elle se retrouve en France, ou en vacances, ou quoi que ce soit, c'est son portable. Donc, vous avez des gens de l'étranger dont elle est censée retirer du renseignement qui vont l'appeler au milieu de sa famille. Vraiment, il y a une intrusion.
C'est compliqué. Une imbrication, en fait, entre les deux vies. Tout ça pour le renseignement français. Justement, quand on travaille à la DGSE, est-ce qu'on en fait partie pour toute la vie?
Ça dépend un peu.
On peut claquer la porte de la DGSE ou...
Oui, bien sûr.
Ah oui,
si vous vous sentez que vous n'êtes plus fait pour ça,
mais
vous pouvez partir.
On signe une clause de confidentialité à vie,
oui.
J'imagine.
Oui. Donc, non, les agents n'ont pas le droit de parler. Ils peuvent demander l'autorisation, les agents sortis du service.
D'accord, ok.
Mais sinon, non, ils ne doivent pas parler.
Ce qu'il y a de fou, et ce qu'on découvre aussi à travers votre livre, c'est que tout est marqué par ce fameux secret. Les missions réussies, on les fait en secret. Les échecs, on les vit dans le secret. Les morts en mission aussi. Les hommages que l'on rend à des morts, tout ça, c'est dans la clandestinité.
Et oui, et puis c'est complètement antinomique avec notre société actuelle.
Exactement.
C'est quand même...
La société de l'exposition, de l'extime, comme on dit.
De la notoriété, ouais. Facile, pour trois fois rien, même de l'argent facile. Donc voilà des gens qui travaillent dans l'ombre, pour nos intérêts à nous, dans des conditions exceptionnelles, qui prennent des risques exceptionnels et qui n'ont pas le droit d'en parler. Donc ça en fait des gens exceptionnels.
Vous avez rencontré justement des gens qui ont été marqués par des événements qui ont marqué aussi la France entière, et notamment les attentats du 13 novembre 2015. Là, pour eux, il y a eu un avant et un après, ça revient dans les
entretiens. Oui, ils y ont répondu très franchement. Pour eux, ça a été un grave échec, puisque ce sont des djihadistes qui avaient été, pour la plupart, fichés par la DGSE. Bernard Bajolet, on l'a encore dit au procès du Bataclan, du 13 novembre, il a dit, on les a eu sur les fiches, mais on n'a pas été en capacité de les repérer, de prévenir. Et donc ça a été vécu comme vraiment un traumatisme par la DGSE. Toutes les équipes ont été traumatisées. Elles ont travaillé comme des dingues quand il y a eu les attentats pour essayer de les retrouver. Mais ça a été vécu comme un échec. Donc c'est vraiment là, ils l'ont considéré comme une cause personnelle. Mmh. C'est pas un dossier lambda. Ils connaissaient des gens du Bataclan, enfin comme tout Parisien, tout Français a pu avoir des liens avec les malheureuses victimes.
Donc c'est une blessure.
Oui. Et reconnue comme un échec.
Avec Jean, que vous avez rencontré, qui est officier supérieur contre-terrorisme, ça consiste en quoi déjà?
C'est pas exactement la dénomination de son travail, mais il est chargé de traquer les terroristes dans le
D'accord.
monde.
D'accord, ok. Avec lui, vous êtes revenu justement sur une traque sans relâche, celle de l'un de ceux qui était derrière ce drame, c'était le 24 décembre 2007.
En Mauritanie, une famille française a été attaquée sur une route à 250 km à l'est de Nouakchott. Il y a 4 morts, dont 2 enfants. La cinquième personne, le père de famille, a été grièvement blessé par balle. Le président français Nicolas Sarkozy a affirmé que tout serait fait pour rapatrier les blessés et le mort dans les meilleurs délais.
Qu'est-ce qui s'était passé, Jean-Christophe Notin?
Alors, ce sont une famille qui faisait un itinéraire le long de la frontière mauritanienne, qui ont été attaqués par ce qu'on a appris ensuite des djihadistes, qui les ont donc tués. Seul le père s'en est sorti, il a perdu deux de ses fils et son frère. Mmh. Et donc là, immédiatement, la DGSE a été mise en branle pour... châtier les coupables.
Et parmi les coupables, il y avait Mokhtar Belmokhtar.
Alors, Mokhtar Belmokhtar, c'était un peu un commanditaire.
Il était derrière, c'était une tête pensante de...
Oui. Et donc, pendant des années, il a été traqué. Il était déjà traqué auparavant. Hein. C'était un peu une légende noire du djihad sahélien. Réputé, pour évidemment sa cruauté et les différents méfaits qu'il a pu connaître. et qui a réussi à échapper un certain nombre d'années au service. Mais c'est là où on voit les services ont une mémoire très, très longue.
Exactement. Puisqu'on apprend, en fait, dans votre livre, parce que Jean, en fait, il connaissait le Sahel. Hein. C'est pour ça que vous êtes revenu avec lui dessus. Et c'est pour ça aussi qu'il a mené cette traque après Mokhtar Belmokhtar. Parce que ce qu'on apprend dans votre livre, c'est la confirmation dans la bouche de l'un des directeurs de la DGSE, la confirmation de la mort de Mokhtar Belmokhtar. On en avait entendu parler, mais on n'était pas certain que ce soit fait. Donc, la confirmation, elle est dans votre livre. Et surtout, on apprend aussi que c'est grâce aux renseignements français qu'il a été éliminé.
Oui, c'est là où vraiment la démarche a atteint son but, est exceptionnelle. La DGSE a, une fois de plus, bien voulu parler de 15 ans de traque contre-terroriste, donc oui. Dans le détail. Elle reconnaît être impliquée dans la mort de Belmokhtar et elle reconnaît la mort. Pour certains, Belmokhtar est encore en vie. Donc la DGSE affirme que non, il a bien été éliminé dans une opération menée en partenariat, si j'ose dire, avec des forces militaires. Mmh. Pas forcément la DGSE qui est allée tuer Belmokhtar, mais qui avait accumulé le renseignement nécessaire pour le localiser.
En tout cas, la DGSE ne lâche jamais. C'est ce que l'on voit aussi à travers
C'est ce que dit Bernard Rémier. Tous ceux qui attendent, donc le précédent directeur général, ouais. Tous ceux qui attendent aux intérêts français doivent s'attendre un jour ou l'autre à le payer.
La roue tourne donc, en tout cas, avec la DGSE. On se retrouve tout de suite, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'RTL.
Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
La DGSE, bien évidemment, on en parle ce soir, mais vous en saurez tellement plus à travers le livre de notre invité aux éditions Talendier. La DGSE que vous appelez Mortier, Jean-Christophe Notin, comme si vous faisiez partie de la maison, vous, tranquille. En même temps, vous y avez passé des semaines, vous y avez passé des mois. On l'appelle aussi la boîte, on l'appelle la centrale, le service. Mais vous, la DGSE, après tous les entretiens que vous avez menés, eh bien, vous avez décidé de l'appeler le monastère. Pourquoi ?
Alors, c'est ma petite touche humoristique, mais quand même.
C'est pas faux. En fait, quand on lit votre analyse, on se dit que ça n'est pas...
Quand on regarde vraiment dans le détail, on y est. Hein. Ce sont un lieu très isolé, avec des gens qui ne parlent pas, qui ont une très forte conscience de travailler pour le bien commun, qui n'ont pas envie de, surtout que ça le sache à l'extérieur. On n'est pas loin de moine, en sachant que c'est un métier, une fois de plus, très procédurier, très besogneux, on peut dire. Donc on n'est quand même pas loin des moines.
Un grand déménagement est prévu en 2028, je le disais tout à l'heure, pour Vincennes. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je me suis d'abord qu'ils vont quitter des lieux emblématiques, le fameux Mortier. Et en plus de ça, au-delà de ça, déménager la DGSE, c'est pas anodin quand même.
Ça va être une opération.
Ça ne va pas être
soi.
Les déménageurs bretons, vous voyez ce que je veux dire, c'est, oui, ça va être une opération en soi, oui.
Non, ça va être des déménageurs maison, je pense. Et évidemment, ça va poser un certain nombre de complications. Alors après, il y a certains services qui ont déjà fait ça. L'ex-DST, devenu maintenant la DGSI, avait déjà déménagé.
Ouais.
Donc il peut y avoir des précédents, mais certain que ça va être vraiment une véritable opération. Ça va devoir être pensé, parce qu'il y a non seulement le déménagement, mais le DGSE est obligé de continuer à fonctionner dans le même temps.
Et bien sûr, on ne va pas arrêter au motif
non.
que...
Et là, je crois que ça ne serait pas très bien compris à l'extérieur.
Mais pourquoi il déménage ?
Parce que faute de place, et vraiment des locaux quand même, une fois de plus pour y avoir passé un certain temps, qui sont assez vétustes, assez anciens, petits... mal foutu, avec très peu de services d'agrément qu'on peut voir maintenant dans toutes les grandes sociétés. Il n'y a rien. C'est vraiment une vieille caserne qui a été aménagée, rénovée.
Il n'y a pas de cantoche, il n'y a pas
Alors,
de...
Alors si, il y a une... Si, même, c'est bien organisé. On n'a pas eu accès, puisque...
Oui,
ça n'était pas... Mais on a vu ça de loin, on tirait la langue, mais on a vu ça de loin. On n'était pas nourris.
Bah oui, c'est ça, vous n'avez pas été nourris, vous avez été enfermés dans votre salle,
oui,
sans être nourris, on vous a peut-être donné à boire, vous avez passé un interrogatoire
et tout. Donc, il était temps de déménager.
D'accord.
Dans un lieu un peu plus moderne.
Il y en a qui nous écoutent et qui se disent peut-être que ils sentent naître en eux une vocation. D'abord, on se rend compte à travers certains parcours dans votre livre que l'on peut travailler pour les services de renseignement extérieur à tout âge, même en ayant déjà eu une carrière. Néanmoins, comment est-ce qu'on entre à la DGSE ? On ne se fait pas que tamponner. Est-ce qu'on peut envoyer un CV ?
Voir un jour la surprise, donc quelqu'un qui vient vous chercher, mais sinon les voies les plus classiques, c'est le concours. Il y a un concours, c'est un corps une fois de plus de fonctionnaires, donc vous préparez un concours et vous le passez, vous réussissez ou non. Et sinon, vous avez des compétences particulières, donc sous contrat. Donc c'est là typiquement des compétences techniques ou des compétences de langue.
D'accord.
Et là, vous portez candidat.
À propos de compétences, il y a quand même des secteurs d'avenir. Je pense à Ulysse, par exemple. Ulysse, c'est une sorte d'agent que vous avez rencontré qui est spécialiste cyber. On en parle régulièrement dans cette émission. Voilà. Le cyber, c'est aussi le monde de demain. Même si, vous l'avez dit, le meilleur des renseignements passe par l'humain, il y a sûrement des secteurs d'avenir dans le renseignement, non ?
Alors, c'est forcément un terrain, on le voit bien avec les Russes, un terrain de confrontation. Donc forcément, la DGSE doit être présente, elle dispose de moyens importants, d'équipes très compétentes et qui ont la caractéristique de pouvoir mener elles-mêmes des opérations cyber offensives.
D'accord. On s'arrêtera là.
Oui.
Ok, c'était passionnant. Merci beaucoup Jean-Christophe Notin d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, je conseille votre livre DGSE, la fabrique des agents secrets, paru donc aux éditions Talendier, et puis ce fameux documentaire du même nom qui sera diffusé, ce sera le 9 avril prochain en prime time sur France 2. Merci à vous et à bientôt sur RTL. Merci à tous mes agents secrets. Voilà, Céline Bonnet, Quentin Azoulay, il y a peut-être des infiltrés dans l'équipe, dites donc. Bastien Robin, tiens, Marc Bisset, je trouve qu'il a une bonne tête d'agent secret, lui. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 20h, pour un nouveau numéro de Jour J. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci pour votre fidélité. À demain.